Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette émission Parole au présent, au microphone Claude Julien. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour Francine.
Bonjour Claude.
Alors, ça serait bien que vous nous situiez, c'est français, situiez ce texte de l'Évangile, donc de la liturgie de cette fin de semaine, avant que j'en fasse lecture.
Oui, alors nous sommes toujours dans la longue section de Luc, qui est le voyage de Jésus vers Jérusalem et la Passion, comme pour tout l'été. Et dans le texte d'aujourd'hui, Jésus en parle de sa Passion de façon allusive en utilisant des images qui sont à peine voilées.
J'en fais lecture au chapitre 12, versets 49 à 53. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Alors, Francine Robert, si je comprends bien, ce texte enchaîne directement sur celui de la semaine dernière.
Oui, hein? Que vous nous avez commenté d'ailleurs. Ce texte qui mettait en scène des paraboles de maisonnée, hein, lieu de la vigilance, lieu du service, et la maisonnée qui est figure de la communauté chrétienne. Voici que cette maisonnée se voit placée subitement sur un horizon plus inquiétant, c'est-à-dire le feu. L'immersion dans l'eau, ce qui est le sens du verbe baptizo, et les ruptures et les divisions. Hein. Donc, ce sont des périls auxquels est exposée l'expérience ecclésiale ici, et auxquels Jésus lui-même est exposé, comme le montrent les 2 premières phrases où il parle de lui. On a vu les verbes « je suis venu »,« je voudrais »,« je dois recevoir »,« je suis oppressé », alors que la deuxième partie de notre texte parle des gens qui sont divisés à cause de lui. C'est un texte un peu abrupt, hein?
Oui, il est surprenant. Il est vraiment surprenant.
C'est pas le passage avec lequel je suis personnellement le plus à l'aise.
Oui. Dans les probablement évangiles. Que si vous aviez la responsabilité de faire de fabriquer la liturgie, vous peut-être que vous l'auriez enlevé.
Je sais pas. Je suis pas sûr qu'il faut enlever les textes avec lesquels on est mal à l'aise.
Bien, c'est bien une autre répondu. Question. Très bien. Alors, vous allez nous aider à rentrer dedans.
Oui,
quand même,
on va essayer. Donc, ouais. 2 parties, 2 phrases de Jésus sur lui-même et ensuite sur nous. Les 2 phrases de Jésus sur lui-même, il est venu allumer un feu, il doit être baptisé d'un baptême. Je répète le mot parce que dans le grec, il est répété ainsi, baptisé d'un baptême. Donc, 2 affirmations à propos de lui. Chacune de ces affirmations étant suivie d'une expression de comment il se sent, de ses dispositions intérieures ou comment il se positionne lui-même face à ce qu'il vient d'annoncer. C'est rare dans les évangiles ce genre de commentaire sur l'intériorité de Jésus. On voit face au feu, il se sent impatient, face au baptême, il se sent oppressé. Donc, on a ici quelque chose d'assez précieux qui est propre à Luc, hein, qui vient de matériaux traditionnels qu'il est le seul à avoir. Donc, d'abord, les 2 images, feu et baptême, et comment Jésus se positionne. Le feu particulièrement, on pourrait explorer 3 significations possibles, parce qu'avec les images, on peut toujours avoir plus d'une signification. J'en retiendrai 2 de ces significations-là. La première des 3 que je vais présenter, c'est peut-être l'image la plus connue qui nous vient en tête, le feu qui est jeté sur la terre. D'ailleurs, c'est le verbe qu'on a ici dans le grec. « Je suis venu jeter un feu ». pour beaucoup de gens, ça évoque la colère de Dieu.
On pense à Sodome.
Ben oui, Sodome et Gomorre, le feu tombe du ciel comme un fléau destructeur, c'est la condamnation. C'est utilisé aussi dans ce sens-là chez les prophètes, l'image du feu, au sens figuré, mais le prophète Élie, lui, faisait tomber le feu réel, pas juste en image, sur ses ennemis. Je voudrais seulement rappeler que Jacques et Jean ont voulu aussi faire tomber le feu sur un village de Samarie qui n'avait pas accueilli Jésus. Et Jésus s'était opposé à cette manière de faire qui correspond pas du tout à la vision qu'il a de sa propre mission.
Donc ce premier sens-là, c'est important que vous en parliez parce que c'est ce qui nous vient d'abord.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas celui-là que vous privilégiez, c'est
non,
le moins qu'on peut
moi,
dire.
Non, ni moi, ni les exégètes que j'ai consultés. Mm-hmm. Les deux autres significations, on peut les garder toutes les deux, je pense qu'elles sont intéressantes.
Et c'est surtout là-dessus que c'est qu'il faut, c'est ça qu'il faut retenir. Quoi.
Je le crois, oui. Okay. Mm-hmm. Et ces deux significations ont l'avantage de regrouper ensemble l'image du feu et l'image du baptême. Ensemble, feu et baptême, ça rappelle l'annonce que Jean-Baptiste faisait déjà, que vous pourriez peut-être nous rappeler, s'il vous plaît.
Il leur dit, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient le plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille au feu. »
Oui. Donc, on se rappellera que la prédication du Baptiste annonce la venue du jugement de Dieu. On est donc dans le contexte de l'eschatologie, le mot qui désigne la fin d'un temps qui approche.
Mm-hmm.
Alors, le feu ici, comme le baptême, dans la prédication du Baptiste, c'est un symbole de purification. Le baptême qui est une plongée dans l'eau purificatrice et en même temps pour Jean, signe que je me convertis, que je veux me purifier. Et le feu qui sépare dans le minerai, par exemple, qui sépare le bon métal des scories. Donc, le feu est purificateur. Ici, on brûle la paille. Chez Malachie, c'est comme ça déjà aussi. Hein. Malachie présente Dieu comme celui qui vient, comme étant le feu d'un fondeur qui va siéger pour fondre et purifier l'argent.
Alors, vous voyez, c'est un peu comme si Dieu venait faire le ménage en nous, je dirais.
Mm-hmm. Ah, c'est intéressant, ça.
Séparer le bon du mauvais, finalement. Alors, c'est une image inquiétante, mais pas une image de colère et de destruction, comme la première. Cette réflexion-là qui nous oriente vers le contexte de la fin des temps, c'est-à-dire de la venue du règne de Dieu, je le rappelle, cette réflexion-là nous ramène à la mission de Jésus. Hein. Jésus lui-même annonce que le règne de Dieu est tout proche. Il considère que l'eschatologie n'est pas très loin dans l'avenir. Et donc, comme ça se rapproche de sa mission, ce serait étonnant que le feu serve dans sa bouche, lorsqu'il l'utilise pour parler de sa mission, à désigner la colère de Dieu, puisque, surtout dans Luc, toute sa mission est de proclamer la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, il y a quelque chose de radical dans l'appel à la conversion, mais même si avec le règne de Dieu approche les épreuves finales, on n'est pas en train là d'être mis en présence d'une menace de la colère de Dieu. C'est le visage d'un Dieu qui appelle à faire des choix urgents, appelle à prendre position, tout comme d'ailleurs la suite sur les disputes dans les familles va nous le rappeler. Donc ici on sent la phrase de Jésus dit la hâte, hein, l'impatience de Jésus. Hein, j'ai hâte que ce feu soit déjà allumé. Hein, finalement j'ai hâte que le règne de Dieu arrive. Ce serait bien de le mettre avec cette hâte-là quand on dit dans Notre Père que ton règne vienne.
Ouais.
Hein, j'ai hâte que ton règne vienne. C'est sûrement assez proche de Jésus historique.
J'aime bien votre image du minerai. Je trouve que si on garde cette image-là en tête, c'est très clair, quoi. Hein. Le feu brûle ce qu'il y a de méchant, ce qui est inutile, ce qui est pas bon pour garder le...
Oui. C'est bien net chez Malachie, entre autres au chapitre 3.
Okay.
Alors, ça, c'était la proposition d'un des sens qui est intéressant et d'une signification, donc, parlante. L'autre, un troisième, j'en avais annoncé trois. Troisième, donc, façon de réfléchir sur ces deux images du feu et du baptême ensemble. On se rappellera peut-être qu'ailleurs, le baptême évoque la passion de Jésus. Jésus parle lui-même de sa passion en utilisant l'image du baptême. Lorsqu'il va dire à Jacques et Jean qui voulaient siéger avec lui dans sa gloire, nos deux mêmes Jacques et Jean qui voulaient faire tomber le feu du ciel, hein, en passant, c'est peut-être les enfants terribles du groupe. Et donc, Jésus leur répond, « Est-ce que vous pouvez voir la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Et dans le contexte, on voit bien qu'il utilise l'image du baptême pour parler de sa passion.
C'est dans Marc au chapitre 10, puis ça vient tout juste après la troisième annonce de la passion. Et la coupe, je pense que tout le monde va se rappeler la prière à Gethsémani, hein, « Père, si possible que cette coupe s'éloigne de moi. »
OK. Ouais.
Donc ici, ça peut être comme ça aussi qu'on le comprend. Le feu et le baptême comme les épreuves qui attendent Jésus. D'autant plus que le baptême, donc je le rappelle, ça évoque l'immersion. Alors ça peut être évocateur de la mort. Hein? On peut être englouti, immergé dans les eaux menaçantes.
Absolument. Ben oui. Quand on plonge quelqu'un, ça évoque la noyade.
Oui, si bien que le mot plonger en français a gardé ce sens-là, alors même qu'on ne parle pas d'eau. On est plongé dans la tristesse, malheurs, immergé jusqu'au cou dans la détresse. Alors, c'était vrai aussi dans l'Ancien Testament. Ce verbe plonger servait comme ça aussi. Et Jésus, donc, ici, annonce une épreuve qui l'attend et qu'il perçoit comme difficile pour lui, hein, qui est donc la passion. Il ressent de l'angoisse. Le verbe ici qu'on a dans le grec, suneko, ça veut dire ce que François Beauvon, en tout cas, propose comme suggestion dans son commentaire. C'est tenir, comprimer. Peut-être, pour que ça soit clair, je vous donne un autre exemple où on trouve ce verbe chez Luc. C'est à 19:43, lorsqu'il parle du siège de Jérusalem, et qu'il dit « Tes ennemis vont t'environner de tranchées, vont t'enfermer, vont te presser de toutes parts. » Te presser, c'est ce verbe « suneko » qu'on a ici aussi. Donc, c'est comme si Jésus, en utilisant ce verbe au passif, dit « Je me sens pressé, oppressé, ou angoissé, la Bible de Jérusalem traduit « angoissé ». Dans la perspective de ce baptême épreuve qui m'attend, je me sens oppressé jusqu'à ce qu'il soit accompli. Alors, pour prendre une distance face à la traduction qu'on trouve dans le lectionnaire, « comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli », c'est la traduction ici, ça exprime plutôt l'impatience. J'ai hâte. Au fond, la traduction ici s'aligne sur l'attitude de Jésus face au feu qu'il est venu allumer. Dans la première phrase de notre texte, « Je suis venu allumer un feu, j'ai hâte, je suis impatient que ça arrive. Mais j'ai un baptême à traverser et non pas j'ai hâte et j'ai du mal à attendre, mais je me sens angoissé face à ce baptême. » On a l'incarnation ici tout à fait et je pense qu'on doit bien se réconcilier avec cette perspective de l'incarnation réelle. D'ailleurs, le baptême, enfin vous qui êtes un pasteur et qui rencontrez des gens qui font baptiser leurs enfants, le baptême est autant un symbole de mort tradition.
C'est une annonce de la mort, mais d'une mort qui va débloquer sur la résurrection. Mais il y a une dimension mort, et je me gêne pas pour le dire.
Ouais,
hein. Plonger dans l'eau, on n'est pas loin de la noyade.
Paul nous le dit bien d'ailleurs dans Romains 6. Hein. Par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort afin que nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle, exactement comme vous venez de le dire. Donc, la vision de l'évangéliste ici, qui serait une deuxième signification, à ces images de feu et de baptême, ce serait la passion et la mort du Christ comme une étape majeure de l'histoire du salut. L'histoire du salut qui est un sujet qui préoccupe l'évangéliste Luc. Et nous avons ici, je le rappelle, deux phrases propres à Luc qu'on ne trouve donc nulle part ailleurs dans les autres évangiles. C'est au-delà de cette mort représentée ici par le baptême qui attend Jésus, c'est au-delà de ce baptême et de cette mort que le ressuscité donne la vie nouvelle. Or, chez Luc, le feu est aussi une image de l'Esprit-Saint. On se rappellera que le récit de la Pentecôte utilise l'image du feu comme symbole de l'Esprit. On se rappellera aussi donc que la Pentecôte, c'est un récit qui est dans le livre des Actes, écrit par le même évangéliste Luc. Alors, plusieurs pères de l'Église ont interprété ainsi ces deux phrases, finalement. Jésus entrevoit la passion et la mort, et il a hâte que le règne de Dieu arrive comme un feu qui purifie. Et par-dessus cette signification, Luc nous dit, ce baptême et cette mort qui attendent Jésus sont le passage obligé qui a permis au ressuscité de nous donner ce feu qui est l'Esprit. Et ce feu auquel nous avons accès nous-mêmes par le baptême qui nous entraîne à la suite de Jésus, donc dans la mort et dans la vie nouvelle.
Mmh, mmh.
Ceci pour la première partie de notre péricope d'aujourd'hui.
Bien.
La deuxième partie du texte, Luc l'a en commun avec Matthieu 10. Alors, la première phrase, elle surprend beaucoup de personnes et elle déplaît tous les autres qu'elle ne surprend pas, je dirais.
Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous dis, mais plutôt la division. Hein? Puis
oui.
La suite, là,
les conflits, les chicanes familiales.
Le père contre le fils,
voilà.
Etc.
Bon. On aime bien, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien les récits qui finissent avec Jésus qui dit à quelqu'un « va en paix
ouais. ».
J'ai été d'ailleurs déçu de voir, en faisant la recherche, qu'il y a seulement deux récits qui se terminent ainsi, par « va en paix ». Enfin, ouais. On le lit trois fois, mais il y a un des récits qui est dans Marc et Luc. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est sûr que la paix est un bienfait de Dieu et c'est ce que Dieu veut donner à son peuple. Bien que la paix, ça ne s'impose pas, c'est le résultat d'une manière de vivre ensemble. Dieu n'a pas de baguette magique en ce qui concerne notre manière de vivre ensemble. Les prophètes annoncent la paix, mais les prophètes annoncent parfois les malheurs. Et les faux prophètes annoncent parfois la paix aussi. Comme à l'époque de Jérémie, par exemple. Hein? Le Jérémie de notre première lecture, d'ailleurs, de ce dimanche, au chapitre 38. Jérémie annonce la guerre. À cause de ça, il s'est fait mettre en prison. Et les gens de son époque préfèrent croire les faux prophètes qui annoncent la paix. Alors, on pourrait dire que, comme Jérémie, comme d'autres prophètes, oui, Jésus propose un idéal de vie et qui inclut une manière de vivre en paix entre nous. Mais Jésus n'est pas une espèce de utopiste, de rêveur béat ou rose bonbon, disons, refusant de voir la complexité du réel et les difficultés des êtres humains. Alors ici, il annonce que la paix ne va pas de soi, même si elle est un bien essentiel et absolument précieux. D'ailleurs, chez Luc, j'ai été étonné de constater que on trouve 12 mentions de la paix associées soit à la venue du règne de Dieu, soit au salut, soit à la mission de Jésus. C'est beaucoup, 12. Alors que les trois autres ensemble, Matthieu, Marc, Jean, en ont 13 en tout.
En tout,
ouais,
en
donc
tout
Luc, à lui tout seul, en a autant, c'est ça. De toute manière, la phrase sur la paix qui est peut-être la plus connue des évangiles, c'est paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. C'est dans Luc, bien sûr, c'est la phrase de la nuit de Noël.
C'est ça.
Donc, Luc trouve la paix importante. Et je rappelle aussi, peut-être, vieillard Siméon, dont les paroles vous sont certainement familières
ben oui.
à vous.
Ben oui, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole.
Oui, qui est donc la prière reprise
prière du soir aux brévières.
C'est ça. Et on voit bien qu'il s'agit plutôt ici d'une paix intérieure. Hein. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. C'est une paix intérieure, une paix personnelle, plutôt que la paix dans les relations avec les autres ou la société. Mais ce même Siméon est réaliste hein, lorsqu'il annonce à Marie et à Joseph à propos de l'enfant Jésus, puisque nous sommes au chapitre 2 de l'Évangile de Luc. Il annonce donc « Cet enfant amènera la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et il sera un signe qui provoquera la contradiction. » C'est exactement de ça que Jésus est en train de parler quelques 30 ans plus tard. Lorsqu'il dit « Ben oui, je vais provoquer la contradiction. » En fait, il l'a déjà lui-même vécu, la contradiction. Il est lui-même en but à la contradiction et au refus. Et il constate simplement la décision que chacune de vous, il s'adresse aux disciples, la décision que vous prenez par rapport à moi, à ce que je dis, à ce que je fais, Jésus annonce que cette décision va susciter des débats dans leur famille, va susciter des contradictions va susciter des ruptures. Alors, c'est clair que Jésus ne parle pas de la paix intérieure, là, comme par exemple lorsqu'il dit à la pécheresse « va en paix », mais il parle de la paix dans les relations. Donc, Jésus parle d'un des impacts de sa mission, les gens vont être divisés à cause de lui. C'est pas ce qu'il souhaite, hein, je ferai remarquer. Jésus ne nous dit pas «
C'est pas un désir, là. C'est
je vais pas,
un pas
apporter la paix. »
Non. Hein? C'est un constat.
C'est un constat beaucoup plus extérieur que les deux premières phrases où il parlait de comment il se sent. C'est un constat qu'on pourrait traduire « Si vous pensez que ça ira sans problème, vous êtes dans l'illusion. Hein? » Et on sait que ces ruptures et ces divisions se sont produites dans toute l'histoire du christianisme, sans parler au sens plus large des guerres de religion.
À l'origine, les communautés juives ont été divisées,
beaucoup.
Puis les familles ont été divisées.
Oui.
Les uns étaient pour Jésus, puis les autres disaient, on ne tue pas là-dedans.
C'est ça. Dans le peuple d'Israël lui-même, cette division-là, elle est tragique pour Luc, qui y réfléchit. On voit comme Paul y réfléchit beaucoup, et Matthieu plus encore. C'est très présent dans l'évangile de Matthieu. Cette division d'Israël, dont un certain pourcentage a reconnu Jésus comme Messie, et d'autres non. Mais Luc a vu aussi, et Paul aussi, dans le monde grec, des familles divisées. Un peu comme, on en connaît peut-être nous-mêmes, des familles où l'une des personnes devient, entre dans une secte ou dans un autre mouvement religieux, ou se convertit à une autre grande religion. Et il y a des gens là qui deviennent incapables de poursuivre la relation. Il y a un rejet.
Il y a des ruptures.
Ça. Alors Jésus dit simplement ici, je ne n'invite pas à la division, mais cette réalité difficile, elle est dans l'horizon de votre expérience à venir. La radicalité de ce que Jésus propose implique que l'on fasse des choix audacieux et, entre autres, des choix qui sont en rupture souvent avec les normes de vie courantes, hein, tout comme Jésus mangeait avec des pécheurs et ainsi de suite. Il y a là des audaces, disons, qui échappent un peu aux normes habituelles, qui vont contre les usages, et les gens qui font ces choix décisifs risquent d'être rejetés par leur famille et leur milieu de vie, tout comme Jésus lui-même a été rejeté. Donc, c'est le sens de cette parole, inconfortable, mais réaliste.
Qui, répétons-le, n'est pas un souhait, n'est pas un désir de Jésus, mais un constat. Hein?
C'est ça. Ouais.
Et je dirais même que peut-être que Luc était sûrement troublé ou dérangé en assistant à certaines ruptures qui se faisaient à l'intérieur des familles.
Bien sûr, c'est des familles qu'il connaît personnellement.
Il fait son analyse, quoi.
Certainement, c'est les évangélistes vivent avec le vrai monde, si je peux me permettre cette expression. Une dernière remarque. J'ai été frappé que dans son annonce, Jésus mentionne aussi bien les divisions entre les femmes qu'entre les hommes. Hein. Mère contre fille, belle-mère.
C'est vrai, ça.
Un monde où la marge de liberté des femmes est tellement minimale qu'on n'imaginerait même pas que des femmes puissent prendre une décision qui les met en rupture avec leur milieu familial, c'est un des rares textes du Nouveau Testament où on mentionne aussi bien homme que femme de façon très claire. Alors, pour une fois qu'on n'a pas le masculin inclusif, j'aime bien ce texte qui dit que chaque femme aussi, comme chaque homme, doit faire ses propres choix et en assumer les conséquences.
Alors, vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone Claude Julien, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine à notre antenne. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.